Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu, stratège militaire et philosophe chinois, a écrit ce qui suit dans son ouvrage classique L'art de la guerre. Peut-être vous êtes au courant, malheureusement, c'est un classique maintenant. Il a écrit ça. Il a écrit, si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Depuis lors, la stratège militaire qui cherche à vaincre leur ennemi répète la phrase « Connais ton ennemi ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général américain George Patton a lu le livre de tactique militaire de son adversaire Erwin Rommel. Napoléon était bien connu pour son étude minutieuse de ses ennemis. Et Laurence d'Arabie est devenue célèbre pour sa compréhension approfondie de la culture ottomane pendant la Première Guerre mondiale. Nous aussi, nous avons un ennemi. Et l'apôtre Paul voulait que nous connaissions et comprenions cet ennemi afin de pouvoir nous défendre contre ses attaques. Regardez avec moi, reportez s'il vous plaît à Ephésiens 6 et verset 12, on peut lire un petit peu concernant nos ennemis. Il dit ici, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous pouvons lire ce verset rapidement et ne pas considérer ce que l'apôtre Paul nous enseigne. L'apôtre Paul décrit quelque chose auquel nous devons faire face dans notre marche chrétienne. Quelque chose qui nous aide à connaître notre ennemi. Ces paroles, bien qu'écrites il y a des siècles, nous disent que nos luttes transcendent le domaine physique et sont enracinées dans la dimension spirituelle. Cela peut conduire certains croyants à imaginer des démons tout autour d'eux et d'autres croyants à rejeter ou minimiser les implications spirituelles de ce verset. Certains peuvent adopter une mentalité de siège face à ce mode de vie, tandis que d'autres commencent chaque jour de leur vie sans être conscients des dangers spirituels qui les entourent. Quel est le juste équilibre et comment savoir comment réagir face à l'avertissement de Paul dans ce verset? Aujourd'hui, je voudrais examiner ce verset de livre d'Éphésiens et me demander qui sont des dominations et ses autorités, qui sont des princes de ce monde de ténèbres et comment peuvent-ils nous influencer et nous attaquer? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que disciples de Christ, nous équiper pour résister à ces forces et sortir victorieux de nos batailles spirituelles? Le titre du message aujourd'hui est « Connaître notre ennemi ». Connaître notre ennemi. Je pense qu'il nous est facile de minimiser l'impact de la dimension spirituelle sur notre pensée. En considérant notre marche chrétienne, nous parlons souvent des problèmes de notre nature humaine ou du fait que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Mais dans notre monde moderne, nous avons tendance à ne pas suffisamment considérer l'influence des forces malveillantes qui peuvent influencer notre pensée. Et donc j'espère que ce sermon nous aidera à prendre plus au sérieux les attaques auxquelles nous serons confrontés chaque jour lorsque nous cherchions Dieu et que nous efforcerons de laisser Jésus-Christ vivre en nous. Alors, commencez par les deux principaux, les deux points ici que l'apôtre Paul décrit dans Éphésiens 6, verset 12, à lutter contre les dominations et les autorités. Le premier domaine de combat spirituel que Paul mentionne est les dominations, ou en grec, archas. Ce terme signifie commencement, autorité ou dirigeant. Ce qui vient en premier, donc ça c'est le sens de ce mot, et qui est donc le plus important. Et la deuxième chose qu'il mentionne, les autorités en grec, est exousias. Ce terme, signifie autorité, contrôle ou pouvoir. Et le mot est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les autorités terrestres et spirituelles, les deux. Intéressant, il s'agit des termes similaires et Paul les mentionne ensemble au moins 7 fois dans les lettres aux Romains, aux Corinthiens et aux Colossiens. En plus de cette référence ici dans le livre, la lettre aux Éphésiens. Comprenons ce terme en examinant quelques autres passages. Donc, je vous invite à reporter à Colossiens 2. Vous pouvez garder votre place ici parce qu'on va revenir souvent. Donc, je vais garder ma place. Colossiens 2, verset 14, verset 15, pardon. Et on peut voir ici, Paul utilise ces deux termes ensemble. Il dit, il a dépouillé les dominations, voilà, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La plupart des érudits pensent qu'il parle des forces spirituelles de notre adversaire, Satan, qui avait jusqu'à ce moment-là dominé le monde. Il n'est pas nécessaire de s'y reporter, mais dans Matthieu 4, verset 8, nous lisons que Satan a amené Jésus sur une très haute montagne et lui a dit que s'il se prosternait devant lui, Satan lui donnerait tous ses royaumes de ce monde. Elle avait en effet, à cette époque-là, le pouvoir de les donner, mais par la suite, le Christ brisa le pouvoir de Satan. Donc, ça, c'est un exemple des deux choses ensemble. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains 8. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Romains 8, versets 38 et 39. On peut voir que ces mêmes influences ne se sont pas plus grandes que l'amour de Dieu envers nous. Il dit ici, on peut voir ici dans 38 et 39, car l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ça c'est encore le mot, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ça c'est le même mot pour autorité, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette traduction, certaines traductions anglaises traduisent domination ici par démon. Car le contraste est clair. Paul parle de la vie et de la mort, des anges et des démons, des choses présentes et des choses à venir. Et aussi, certaines traductions mettent les mots domination et puissance à côté. Donc l'ordre ici dans le Louis II est un petit peu différent, mais quand même, il y a les deux choses ensemble. Les puissances dont il parle ici peuvent être physiques ou spirituelles. Les mots domination et puissance sont les mêmes termes grecs utilisés dans Éphésiens 6 et verset 12. Dans tous les cas, ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu est plus puissant, mais ses dominations et ses autorités vont nous inciter à rejeter Dieu. L'amour de Dieu pour nous est toujours là, mais on peut rejeter cet amour. Dans notre ère moderne et scientifique, nous voulons souvent trouver des explications matérielles et tout est négligé, le domaine spirituel. Reportez-vous, s'il vous plaît, maintenant à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, et versets 23 et 24. Versets 23 et 24. Et on peut lire ici aussi un autre exemple. 1 Corinthiens 15, versets 23 et 24. Mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, encore une fois, domination, toute autorité et toute puissance. Le dernier ennemi qui sera réduit, c'est l'impuissance. Donc, nous voyons le lien entre les autorités physiques et l'influence des forces démoniques sur elles. Donc, finalement la fin. Si l'on considère les atrocités commises par Joseph Staline, Pol Pot et Adolf Hitler, il est difficile d'imaginer qu'ils n'ont pas subi une influence démoniaque. Même aujourd'hui, alors que nous voyons la guerre revenir en Europe ou au Moyen-Orient, comment ne peut pas reconnaître qu'une composante spirituelle influence ces événements? Dans l'Église de Dieu, nous comprenons bien que notre frère aîné a vécu le mal et qu'il mettra fin à l'ère actuelle du mal. Alors, revenons à Éphésiens 6. Verset 12, et lisons les deux éléments suivants que Paul décrit. Donc, Éphésiens 6, verset 12, il parle ici que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde. Donc, le troisième élément, contre lequel nous luttons est décrit comme les princes de ce monde de ténèbres, ou en grec cosmos kratoras. Cosmos, ça c'est un mot qu'on utilise assez souvent ici en France, en français. Cosmos, c'est la chose que nous avons vue lors de la musique spatiale. Kratos, c'est un autre terme pour chef, donc cosmos kratos. Signifie chef du monde ou prince du monde, et skotos qui signifie ténèbres. Donc ça c'est le terme ici. C'est le seul usage de cette expression dans le Nouveau Testament. Elle tire ses racines de l'astrologie, croyance selon laquelle l'homme et le monde sont censés être contrôlés par les planètes. Toutefois, cette expression en est venue à être utilisée de façon plus large pour se référer aussi bien à l'empereur romain et aux dieux des païens. Comme cette expression n'est usée qu'une seule fois, nous ne disposons pas de beaucoup de contexte pour comprendre ce que Paul voulait dire. Certains disent que ce terme fait référence à l'ensemble de royaumes de Satan, une sorte de royaume maléfique. Le mot prince est au pluriel, notez bien, au pluriel, ce qui signifie qu'il ne s'agit probablement pas seulement de Satan. Je pense qu'il s'agit là d'une interprétation raisonnable de cette référence et je m'explique. Si vous regardez, donc encore une fois, gardez votre place ici à Jean 12, Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31. Il dit ici, maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, le prince ici, c'est le cosmo-créateur, c'est le même concept. Le prince de ce monde est jeté en dehors. Et donc, ça c'est Satan, il est le prince de ce monde. Et ça c'est le terme. En outre, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, ce n'est pas nécessaire de reporter, mais on peut lire que Paul écrit au sujet de Satan en l'appelant le Dieu de ce siècle. C'est la première partie de la phrase, mais la deuxième partie de la phrase dans Éphésiens 6 et verset 12 est ténèbres. Et le terme ténèbres est utilisé beaucoup, beaucoup par l'apôtre Paul. Par exemple, allez à Éphésiens 6 encore une fois, mais maintenant Éphésiens 4, chapitre 5 et verset 8, on peut voir une référence aux ténèbres. Ici, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». C'est intéressant, c'est « étiez ténèbres ». Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, il dit. Tout au long de ses lettres aux églises, Paul oppose la lumière aux ténèbres et s'appuie sur les idées de l'apôtre Jean. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Jean, premier chapitre, Jean 1, verset 3. Et il y a un contraste ici que l'apôtre Jean fait, dans un sens entre le royaume de Dieu et un autre royaume, une autre façon à penser. Dans Jean 1, verset 3, on peut commencer avec verset 1 parce que ça introduit le concept de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, c'est par Christ, par la parole, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, verset 5, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La Bible de Sommeur dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Donc, il existe un contraste entre le royaume que Christ est venu révéler et le règne des ténèbres qui a prévalu sur la terre jusqu'à cette époque. Le Christ est venu annoncer un royaume différent des royaumes de ce monde. Donc, nous pouvons choisir de participer aux idéologies trompeuses ou dirigeants corrompus ou à l'immoralité omniprésente du royaume des ténèbres, où nous pouvons choisir de reconnaître que ces royaumes font partir d'un mode de vie différent de celui auquel nous avons été appelés. Sans nous en rencontre, nous pouvons nous conformer aux sociétés et aux cultures qui nous entourent. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons que vivre dans ce monde, est dangereux pour notre santé spirituelle que nous pouvons commencer à examiner attentivement comment nous sommes influencés. J'ai raconté l'histoire, peut-être à notre époque, d'un collègue avec lequel je travaillais en Inde. Elle avait compris que je ne travaillais pas le samedi et il voulait en savoir plus. Il était hindou, mais il voyait l'intérêt de prendre un jour de congé par semaine. Donc, il a commencé à cesser de travailler le vendredi soir ou samedi soir. Il m'a dit combien sa femme était heureuse de la voir à la maison ce jour-là et combien ses enfants étaient heureux de jouer avec lui le samedi. Il m'a dit que cela avait changé sa vie. Il ne m'a pas posé plus de questions sur ma foi, mais il a été éclairé, ça c'est la lumière dans un sens, sur cet aspect de la loi de Dieu. Parfois, notre lumière brille et les gens la comprennent. Et d'autres fois, notre lumière brille et comme le dit Jean, les gens ne la comprennent pas. La clé est de comprendre qu'après avoir reçu l'Esprit de Dieu, nous ne faisons plus partie de cet autre royaume gouverné par notre adversaire. Et parce que nous ne faisons pas partie de ce royaume-là, nous sommes devenus l'ennemi. Nous ne pouvons pas être neutres. Selon Satan, nous sommes désormais l'ennemi et nous devons être détruits. Une fois que nous en avons pris conscience, nous comprenons que nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de nous engager dans cette bataille. Alors, revenons, s'il vous plaît, à Éphésiens 6 pour lire le quatrième, dernier élément ici de notre lutte, le quatrième domaine de ce combat spirituel concernant les esprits méchants dans les lieux céleste. Les esprits méchants dans la lune céleste. Donc cette expression le céleste est intéressante car la pensée chrétienne dominante veut que nous allions au ciel après la mort. Mais cependant, le livre de Job nous apprend que Satan s'est présenté devant Dieu dans les cieux pour accuser Job. Les démons se déplacent dans les airs, dans le ciel, dans tous les lieux. Et ils sont légion, ils sont nombreux. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Daniel 10, verset 12, pour voir un exemple de ça. Daniel 12. Ah, pardon, Daniel 10, verset 12. Daniel 10, verset 12. Un exemple de combat spirituel qui se déroule dans les lieux célestes. Permettez-moi de vous donner un petit peu de contexte de ce verset. Au début de ce chapitre, Daniel a une vision de Dieu et a prié Dieu de l'aider. Mais aucun secours immédiat n'est venu. Donc on peut voir ici pourquoi dans verset 12. Il m'a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à court de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Intéressant. Cette histoire est remarquable en ce qu'elle révèle les batailles spirituelles qui se sont déroulées et se déroulent probablement autour de nous sans que nous en soyons vraiment conscients. Donc Daniel attend 21 jours sans comprendre pourquoi Dieu ne vient pas, il ne l'aide pas. Et après, il comprend qu'il y avait une bataille spirituelle. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 2 Rois 6. 2 Rois, chapitre 6 et verset 15. 2 Rois 6, verset 15, on peut lire et voir, on peut lire concernant une armée angélique que Dieu avait déployée pour protéger son serviteur Élisée, verset 15, 6, verset 15. Voilà, le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Ah oui, il y a un problème. Verset 10, verset 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « L'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux de serviteur et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chairs, de chars, de feu autour d'Élisée. Donc lorsque je réfléchis à mon passé, je peux voir sans l'ombre d'un doute qu'un ange est intervenu de nombreuses fois dans ma vie pour me protéger. Vous m'avez, il y a parmi vous les gens qui a raconté vos propres histoires à ce sujet. Mais pouvons-nous aussi comprendre que des forces maléfiques interviennent également dans nos moments de faiblesse, de stress ou de découragement ou d'épuisement physique? Et nous pousse à dire et à faire des choses que nous regrettons plus tard. Prenons l'exemple de Saoul. Donc, portez-vous s'il vous plaît à 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 et verset 14. 1 Samuel 16 et verset 14. C'est un verset intéressant. On peut lire le verset d'abord. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ce passage fait l'objet de nombreux débats. Beaucoup de gens se demandent si Dieu enverra un mauvais esprit sur quelqu'un. C'est vrai? C'est vrai? Eh bien, l'hébreu originel l'exprime bien comme ça. Mais si on regarde d'autres exemples dans la Bible, une meilleure façon de comprendre ce verset est que Dieu a permis à un mauvais esprit de venir sur Saül quand il a retiré son esprit de lui. Vous pouvez regarder l'exemple de Job. Dieu a permis à Satan d'attaquer Job. Il y a aussi l'exemple de la personne dans l'homme, dans 1 Corinthiens 5, qui a péché et à qui Paul dit « Remettez-le à Satan ». Dieu ne dirige pas les mauvais esprits, mais il leur permet d'exercer une certaine influence. Ainsi, si on considère les actions de Saoul, à partir de ce moment-là, on voit un homme troublé, violent même. Quiconque ignorait que cela était causé par un mauvais esprit aurait pensé que Saoul était comme n'importe quel autre dirigeant à son époque, n'est-ce pas? Il voulait garder son royaume, mais on nous dit que c'est en fait un mauvais esprit qui lui a causé ses tourments. Donc, on comprend parce que nous avons ce passage, mais peut-être, même à l'époque, les gens pensent, pourquoi Saoul est comme ça maintenant? Il était plus calme avant. Et maintenant, il est tourmenté, il y a un esprit différent sur lui. Et bien sûr, l'exemple ici, c'est que c'est pour ça qu'il a demandé à David de jouer la harpe. Quand la musique vient, son esprit est plus calme. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Luc 22 pour voir un autre exemple de ça. Luc chapitre 22, verset 3. Luc 22 et verset 3. Ça, c'est l'exemple de Judas. Luc 22, verset 3. Oui. Il dit, et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Pardon, verset 3, j'ai commencé à verset 4. Or, Satan entra dans Judas. Entra, qu'est-ce que ça veut dire entra? C'est une possession. Dans un sort, oui. Entra dans Judas, donc son influence, se nommait Iscariote, qui était de nombre des 12. Et remarquez son comportement maintenant. Et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Quiconque ignorait la vérité sur l'influence de Satan sur Judas pourrait penser que Judas était simplement cupide. Judas n'était pas enragé ni agité, il était réfléchi et calme. Quand même il a trahi Jésus, il l'a fait avec un baiser. Combien d'actions de personnes aujourd'hui, ou même des personnes dans l'Église, pourraient être influencées par un esprit mauvais? Dans un moment de colère, de faiblesse, d'épuisement. Donc, intéressant. Remarquez même l'instruction claire que Paul a donnée à Timothée à ce sujet, dans 1 Timothée 4, verset 1. Ce n'est pas juste une spéculation qu'il y a les influences des mauvais esprits. Non, Paul même fait un avertissement à Timothée à ce sujet. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque et la flétrissure dans leur propre conscience. On ne devrait pas être surpris que les mauvais esprits influencent le comportement de ceux qui nous entourent et puissent nous affecter aussi. Nous n'avons pas besoin de nous y reporter, mais dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, Jean raconte la bataille cosmique où l'ange Michael a combattu Satan et où lui et ses démons ont été chassés. Ce récit souligne la réalité du combat spirituel impliquant des armées spirituelles de méchanceté. Ils ne se battent pas avec des armes et des bombes, mais avec des pensées, avec des émotions pleines de colère, d'accusations, de reproches et de mauvaises intentions. Ils essaient de déclencher ses pensées et ses émotions chez ceux qu'ils combattent. Ils cherchent à accuser, à diviser, à mettre les autres aussi en colère que eux. Alors, ça c'est la situation qui est décrite dans Éphésiens 6 et verset 12. Et la question, que faisons-nous alors? Que faisons-nous faire face à cette réalité? Donc, revenons maintenant à Éphésiens 6, et on continue à verset 13. Voyons la réponse. Une réponse bien connue, mais souvent lue trop rapidement. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au cours de notre réponse se trouve notre besoin de lui faire résistance. Faire résistance. Et nous résistons à l'aide d'un ensemble d'outils que Paul décrit dans les versets suivants. Nous reviendrons sur ces outils, ce armure, bien sûr. Mais permettez-moi d'abord de dire que le problème est que nos réactions, quand il s'agit de résister à l'ennemi, se situent parfois à deux extrêmes. Il y a, nous comme les êtres humains, nous sommes toujours dans les extrêmes. Un extrême, nous essayons de résister en adoptant une mentalité de siège, ou bien nous sommes totalement en conscience de la bataille qui se déroule autour de nous et nous ne savons même pas de ce que nous devons rester. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Permettez-moi de vous présenter ce contraste en parlant tout d'abord de la mentalité de siège. Le siège de Leningrad, aujourd'hui connu sous le nom de Saint-Pétersbourg, a été l'un des blocos militaire le plus long et le plus horrible de l'histoire. Il a duré 2 ans et demi, de 1941 à 1944, et il a été lancé par l'Allemagne nazie pour s'emparer la ville et briser la résistance soviétique. Adolf Hitler cherchait à affamer la ville pour qu'elle se rende plus tôt que de risquer des troupes dans des combats urbains prolongés. On peut voir maintenant ça, c'est en Ukraine, les combats urbains, c'est inimaginable. Donc, en encerclant Leningrad, les forces allemandes ont coupé tous les accès terrestres, privant ainsi la ville d'approvisionnement essentiel, sans nourriture, sans d'autres choses. Les conditions à l'intérieur de la ville étaient catastrophiques. Les températures sont descendues en dessus de zéro et les rations alimentaires ont été réduites au point de provoquer la famine. On estime qu'un million de civils sont morts de faim. Un million de faim, de maladie et de froid. Les effets de siège ont modifié même la mentalité des habitants et de leurs descendants. Lorsque quelqu'un entre dans une mentalité de siège comme ça, la méfiance à l'égard des autres s'accroît. L'identité d'une personne devient très réduite et devient uniquement basée sur les menaces à laquelle elle doit faire face. Et les gens cherchent à s'échapper et se faisant souvent prêts à compromettre des valeurs importantes qu'elles auraient autrement défendues. Les bonnes valeurs qui faisaient partie de leur identité sont alors abandonnées avec l'idée que cela leur permettra de mieux résister à l'ennemi. Sur le plan spirituel, si nous pensons que nous sommes constamment assiégés par Satan et ses forces, nous deviendrons déprimés, accablés, frustrés avec les autres et incapables de servir avec joie dans l'Église de Dieu et autrui en général. Ce genre de mentalité nous laisse croire que ce n'est que au prix de nos propres efforts et de souffrances constantes que nous échappions aux forces qui nous attaquent. C'est une mentalité qui nous fait croire que nous sommes dans une forteresse attaquée sans beaucoup d'espoir d'être délivrés et que c'est à nous seuls de confronter l'ennemi. C'est un lourd fardeau que Dieu ne veut que nous portions. L'autre extrême, équivaudrait à ignorer totalement la bataille en cours et laisser son armure dans son placard avant de quitter la maison le matin. C'est comme si quelqu'un arriverait sans le savoir sur le champ de bataille, étant en t-shirt, avec en tongue, s'attendait et sans sortir sans aucune armure, étant inconsciente de ce qui se passe autour de lui. Et cette personne n'aurait que des ennuis dans la vie parce qu'elle sera soumise à l'influence de l'ennemi à chaque tournant de la vie et en subira les conséquences. Et j'ai vu cela dans la vie de certaines parmi le peuple de Dieu qui ont choisi d'ignorer l'aspect sérieux des enseignements qu'elle avait reçus et laisser aller par le courant. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne suivent pas la sagesse contenue dans la Bible et pensent pouvoir s'en tirer spirituellement en suivant leurs propres idées ou leur propre régime de développement personnel. Quelle est donc la bonne voie à suivre entre les deux choses? Donc, voyez, reportez-vous s'il vous plaît à 1 Corinthiens 10, verset 4. Et on peut voir l'enseignement aussi de Paul, 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Pardon, 2 Corinthiens 10. j'ai vu ça, mais pas ici. Voilà, 2 Corinthiens 10, verset 4. Partie de verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok, ça c'est la même chose. Ça c'est le même contexte. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser les forteresses. Nous voyons ici Paul revenir au même thème de la bataille spirituelle, mais remarquez l'analogie qu'il utilise. Au lieu de dire que nous sommes dans une forteresse assiégée, il dit que nous sommes à l'extérieur de la forteresse, en train de la démolir et de la détruire. Poursuivons au verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout autour qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. La bataille est contre les idées et les pensées que nous en tenons. Nous sommes à l'extérieur de ces forteresses et idéologiquement que c'est avec les armes spirituelles que Dieu nous donne, nous détruisons ces villes pensées, ces idéologies, ces façons de réagir qui sont entrées dans notre esprit par notre culture et notre société. Et avec l'aide de Dieu, nous assiégeons le mal dans notre cœur et notre esprit. Et quelle est la forteresse sur laquelle vous travaillez? Si vous ne le savez pas, vous n'êtes probablement pas vraiment engagé dans cette bataille spirituelle. Remarquez cette même idée décrite par le Christ dans Matthieu 16, verset 18. Fameux verset, Matthieu 16, verset 18. Très connu, mais remarquez l'analogie. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et maintenant l'analogie. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Remarquez-vous la même analogie? Les portes de l'enfer sont à l'extérieur de l'Église, et l'Église avancera et détruira ses portes. Individuellement, lorsque nous comprenons notre ennemi, lorsque nous prenons notre équipement pour nous engager dans le combat, les armées de Satan ne peuvent pas l'emporter, car le bien l'emportera toujours sur le mal. Ce sont les paroles de notre Sauveur et elles sont véritables. Revenons donc à Vision 6 et maintenant au verset 14. Et lisons les armes de notre combat. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits de l'enflammé de malin. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez, ça c'est le mot que nous avons entendu de Monsieur Ogedele, et à cela avec une entière persévérance, et prier pour tous les saints. La vérité, la justice, le zèle, la foi, l'espérance de salut, l'étude de la parole de Dieu, la prière et la persévérance. Combien de temps passons-nous à méditer sur ces choses? Ce sont les outils avec lesquels nous prendrons nos positions de combat. Ce sont les choses que nous devrions porter sur nous chaque jour avant de quitter notre domicile et avant d'aller nous coucher. En comprenant les motivations de l'ennemi, son orgueil, son caractère qui accuse, blâme et divise, en devenant sensibilisé à l'expression de sa colère, nous pouvons reconnaître son influence lorsque nous voyons ces choses présente autour de nous ou en nous. Nous pouvons alors utiliser tous ces éléments de l'esprit divin et aussi l'humilité, la paix, la bonté, la gentillesse, la patience, l'amour envers l'autre pour écraser les forteresses du mal et les réduire à néant. Ce n'est donc pas que nous qui luttons de nos propres efforts, de nos propres forces, mais c'est Dieu en nous, lorsque nous lui permettons qui détruira l'effet néfaste de Satan. Au lieu de réagir de la même manière que ceux qui autour de nous fassent au mal, notre seul devoir est de côté notre ego, en nous améliorant, en pardonnant et en décidant de laisser Dieu agir en nous. Lorsque l'on est entouré de problèmes, surtout de problèmes relationnels, étudions les dynamiques spirituelles qui sont présentes. Dans tous les cas, l'influence de Satan est là. Si nous apprenons à utiliser l'Esprit de Dieu pour penser de façon spirituelle, nous rencontrons les signes présents. Et nous pourrions alors décider d'agir de façon opposée, en faisant le bien indépendamment du mal que l'on voit ou qui nous est fait. Donc, si on regarde les versets 20 ici, il dit « Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Dans les chaînes. Donc, Paul a écrit cette lettre alors qu'elle était en prison. On peut voir ça aussi dans chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ pour vous, païens. Il dit qu'il était enchaîné. Il est très probable qu'il allait écrite, il a écrit cette lettre lors de son premier séjour en prison à Rome, vers 61 après Jésus-Christ. On ne savait pas pour sûr entre 60 et 62, donc on peut dire 61 à 61 après Jésus-Christ. Il avait auparavant passé 2 ans et demi à Éphèse, et cette lettre témoigne de l'amour et de l'attention qu'il leur portait. À la fin du chapitre 6, nous lisons les paroles qu'il leur adresse en guise d'adieu. Il veut qu'ils terminent la course. Il veut qu'ils gagnent la bataille. Ça, c'est ses derniers mots à cette église. Dieu a inspiré et préservé ses paroles pour nous, afin que nous puissions terminer notre course et gagner notre bataille aussi. Quelles sont les graines de destruction qui ont été plantées dans nos vies et dont nous devons arracher les racines? Quelle forteresse d'idées et d'émotions négatives devons nous affronter et détruire? Quelle armure devons-nous encore revêtir? Nous parlons de la vérité, mais je constate que plus en plus que chaque personne pense détenir sa propre vérité et ne l'abandonne pas toujours facilement. Ici, Éphésiens 6 et verset 12 nous appelle à reconnaître la véritable nature de notre combat spirituel, à nous équiper de tout amour de Dieu. En comprenant l'avertissement que Paul partage, nous avons une vision plus profonde des domaines contre lesquels nous devons lutter. Il s'agit de connaître notre ennemi. Merci et je souhaite un excellent sabbat.